Bonjour à toutes et à tous, je suis Orlane Messé et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition des podcasts Jeunes chercheurs consacrés cette année au corps face à l'épreuve de la thèse. Ces podcasts font suite à une journée d'études organisée par les doctorants, doctorantes et docteurs du laboratoire C3S et qui s'est déroulée à l'UFR Staps de Besançon les 12 et 13 octobre 2023. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Cindy Louchet. Cindy, tu es docteur en Staps depuis le 16 novembre 2020. Ta thèse s'intitulait « Défense d'entrée, accès réservé aux femmes, sociologie des salles de remise en forme non mixte » sous la direction de Christine Détré et de Oumaya Idrines. Tu t'es intéressée à des salles de sport particulières puisqu'elles se caractérisaient par leur entre-soi féminin. Et tu es désormais maître de conférence à l'UFR Staps de Lille. Cindy, est-ce que tu veux rajouter des choses que j'aurais oubliées ?
Peut-être indiquer quelques pistes de travail que j'ai pu utiliser dans le cadre de ma thèse. Donc, je me suis attachée à caractériser les stratégies commerciales, marketing, qui ont été mises en place par ces salles interdites aux hommes pour conquérir leurs clients, donc la communication, les propositions de services, de formation des membres du personnel notamment. J'ai analysé les modalités de pratique et d'encadrement au sein de ces espaces singuliers, les profils des pratiquantes, abonnés, l'âge, la CSP, la morphologie, le rapport au corps et à l'activité physique et sportive. Et puis, j'ai porté une attention spécifique aux soins apportés à leur corps, aux attentes esthétiques et aux sanitaires de ces mêmes pratiquantes et à leur évolution corporelle au fil du temps. Donc voilà quelques petits éléments qui, du coup, expliquent pourquoi je suis là aujourd'hui.
D'accord, ok. Ah bah, merci beaucoup pour ces précisions. Alors du coup, toi, tu as voulu candidater à notre appel à communication sur le corps et l'épreuve de la thèse, justement parce qu'en fait, ta thèse portait complètement sur la question du corps, ou est-ce que la question du corps est venue un petit peu après dans ta recherche ?
Alors en fait, non, elle est arrivée très très vite, cette question du corps dans le cadre de mes travaux, puisque, même si je débutais mes travaux de recherche, donc au cours de mon master, j'ai commencé sur ce sujet-là dès mon master, le fait que j'interroge notamment la question de l'entretien corporel, les salles de fitness où on entretient son corps, forcément la dimension corporelle était au centre de mes préoccupations. Et donc très très vite, je me suis intéressée à cette dimension-là. Mais pour le coup, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup d'appels à contribution, d'ouvrages méthodologiques qui traitaient de cette question sur le corps. Et de ce fait, pendant ma thèse, je disposais que de rares éléments, quelques éléments ici et là, mais beaucoup de questions restaient en suspens. Je pouvais échanger avec d'autres doctorants que je côtoyais, mais tous n'avaient pas cette problématique-là, ce questionnement en tête. Et rencontrer davantage de personnes qui réfléchissaient à la place que peut occuper le corps dans le processus de recherche, aurait été super utile pour moi et très rassurant aussi, il faut l'avouer. Et finalement, à cette période, je ressentais le besoin de me nourrir des expériences des autres, de leurs essais, de leurs erreurs, de leurs doutes, de leurs déconvenues pour me dire que, comme tout le monde, je progressais pas à pas sur mon terrain, que comme tout le monde, je pouvais commettre des erreurs, que comme tout le monde, j'essayais de m'adapter aux spécificités de mon terrain. Et puis, j'aurais bien voulu avoir bénéficié de quelques ficelles qui m'auraient rendu, je pense, plus confiante à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça que, du coup, j'ai eu envie de répondre à l'appel à communication, même si je travaillais plus forcément sur les salles de fitness à ce moment-là.
Ok, super. Et donc, du coup, comment et quand tu en es venue à t'intéresser à la question de ton corps au cours du processus de recherche, au cours de ton enquête, de ton propre corps de chercheuse ?
Alors en fait, avant même de débuter ma thèse, comme je savais que la dimension corporelle elle serait omniprésente, je voyais pas comment il pourrait en être autrement, étant donné que j'allais étudier ces espaces dédiés à l'entretien corporel. Et c'est des espaces où les femmes viennent pratiquer justement en vue de transformer leur silhouette, leur apparence physique. En questionnant leur pratique corporelle, les divers soins qui sont apportés à leur corps, en questionnant leur engagement dans une salle interdite aux hommes, j'allais forcément avoir cette question qui allait rejaillir sur ma propre corporéité. Mais j'avais pas forcément, au début de ma thèse, mesuré à quel point cet aspect serait décisif, en fait, dans mon travail. Et je m'en suis rendu compte petit à petit, notamment pour entrer dans ces salles, parce que très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'appartienne au bon sexe Autrement dit, il valait mieux que je sois une femme pour passer inaperçue dans une salle réservée aux femmes, pour ne pas susciter la méfiance, la gêne de la part des autres pratiquantes, mais aussi des membres du personnel. Tout simplement parce que ça aurait pu perturber les situations qui se jouaient devant moi, donc il fallait impérativement que je sois une femme. Je me suis aussi très vite rendu compte que j'étais plus jeune que la majorité de mes enquêtés. J'ai pu le constater au cours de mes travaux exploratoires de master, et j'avais conscience qu'il m'était impossible de dissimuler mon âge et que je devais faire avec lui sur mon terrain. Pour éviter cependant d'être assimilée aux femmes de mon âge, souvent qualifiées péjorativement de minettes par mes enquêtés, je devais adopter un comportement conforme à mes enquêtés et donc me distinguer des minettes, entre guillemets, que les femmes veulent justement éviter en venant dans une organisation sportive non mixte. Autre problème qui s'est posé très très vite à moi, c'était ma morphologie. Ma morphologie n'était pas non plus celle majoritairement observée au sein de ces salles, puisque elle était classée dans la catégorie de la maigreur, mais en tout cas mon indice de masse corporelle était plutôt du côté de la maigreur, et ça s'avérait problématique, d'autant plus quand on sait que les femmes qui s'inscrivent dans ces établissements viennent majoritairement pour maigrir. Et plus de 90% des cas, c'est l'objectif de perte de poids qui est annoncé. Et donc, du coup, ma morphologie couplée à mon âge pouvait véritablement me faire perdre mon terrain. Donc, ça a été problématique à ce niveau-là. Et donc, forcément, déjà, à travers ces éléments-là, j'ai dû questionner la place de mon propre corps sur mon terrain de recherche. Et il y a encore un élément qui s'est rajouté, c'était ma socialisation sportive. Ma socialisation sportive, elle a marqué mon apparence physique, ma corporéité. Et... je me demandais comment mes enquêtés allaient réagir face à ça. Finalement, c'est pas véritablement avéré problématique, gênante, car j'ai pu facilement la dissimuler à l'aide de mes tenues vestimentaires ou en réduisant les efforts physiques que j'entreprenais sur les machines qui étaient mises à ma disposition, etc. Mais à travers ces différents éléments, le fait de mon sexe, mon âge, ma morphologie et aussi ma socialisation sportive, finalement, j'allais à l'encontre de toutes les pratiquantes, en tout cas de la grande majorité d'entre elles, et ça s'avérait problématique pour moi. J'avais véritablement peur que ça soit un frein à l'accès à mes enquêtés. Ce qui n'était pas le cas quand j'interrogeais, par exemple, les coachs, puisque finalement, on avait un même parcours de formation, on avait des traits communs qui ressortaient. Mais voilà, il y avait cette opposition sur mon terrain d'enquête qui faisait que la question du corps, de la dimension corporelle, elle s'est tout de suite posée et elle a fait l'objet d'énormément de craintes de mon côté, en tout cas.
Et du coup, ouais, c'est vraiment super intéressant. Donc du coup, j'ai l'impression que quand on te dit que tu étais une minette, c'est une forme peut-être de rappel à l'ordre, en fait, de forme de mise à l'écart par rapport au groupe qui est présent dans ces salles. Mais du coup, qu'est-ce que concrètement ça provoque, le fait de ne pas être dans une norme dominante, dans la norme de ces entre-soi féminins? Qu'est-ce que ça provoque?
Alors, pour ne pas être assimilée à ces minettes, et c'est vraiment là où j'ai voulu travailler, j'ai fait en sorte, en fait, d'invisibiliser une partie du visible, quand c'était possible. Je ne pouvais pas dissimuler le fait que j'étais jeune, ni le fait que j'étais une femme. Alors, pour la jeunesse, c'est un fait, je ne pouvais rien faire. Pour le fait d'être une femme, quelque part, ça m'arrangeait, puisque c'est justement ça qui m'a permis d'entrer sur mon terrain, donc je n'avais aucun besoin d'essayer de le dissimuler. Néanmoins, pour le reste, je pouvais essayer d'atténuer certains attributs qui relèvent de la féminité. J'ai donc renoncé au maquillage quand j'allais dans ces espaces, aux effets de coiffure, aux tenues ajustées près du corps qui pouvaient révéler certains traits de mon anatomie, la musculature, la minceur. En fait, à travers ces détournements de mon apparence, de mes habitudes, parfois, j'ai essayé de me conformer autant que possible à la majorité des clientes et donc à la plupart de mes enquêtées, qui, elle, avait tendance à pratiquer avec des tenues très amples, très foncées, etc., qui avaient tendance à dissimuler une rondeur, un bourrelet. Certaines disaient que, au moins, on ne voyait pas leur bouée. C'était vraiment des termes qui sont ressortis après dans les entretiens. Et le fait que j'adapte ma tenue vestimentaire, c'était un élément important. Et ensuite, dans ces salles, on est mesuré tous les mois. Donc, on est mesuré en termes de poids, notre indice de masse corporelle, notre masse graisseuse, les tours de poitrine, d'abdomen, de hanches, de fesses, etc. Et certaines femmes ont l'habitude de discuter un petit peu de ces résultats mensuels entre elles. Et moi, je faisais en sorte de ne jamais rien dire sur mes mesures parce que justement, j'allais vers la catégorie de plus en plus vers la maigreur. Et donc, je m'opposais de plus en plus à elles à ce niveau-là. Et je voulais pas que ce soit problématique à leurs yeux. Et parallèlement, pour jouer sur les deux tableaux, comme j'enquêtais aussi sur les membres de l'institution et qui, eux, avaient connaissance de mes mesures, puisque c'est les coachs qui me mesuraient, je devais aussi jouer le jeu, c'est-à-dire que j'essayais d'atteindre les objectifs qui m'étaient fixés pour pouvoir aussi me conformer à la majorité des clients qui essaient de suivre les recommandations émises par les coachs. Et donc, je savais qu'ils avaient connaissance des mesures et il fallait que j'aille dans leur sens aussi. Finalement, j'essayais de passer le plus inaperçu possible des deux côtés, que ça soit du côté des coachs et des gérants ou des clientes, pour tenter de me faire accepter. Et ça passait aussi par l'effort physique au sein de la salle, pour pas attirer l'attention lors des efforts. Je faisais en sorte de ne pas en faire plus ou moins que la majorité des femmes qui étaient présentes à ce moment-là. Le but était vraiment de me fondre dans le décor, de pas susciter la curiosité pour perturber le moins possible les situations que j'observais en fait.
Est-ce que parfois tes caractéristiques hein, de chercheuse, mais aussi de pratiquante en fait, est-ce que parfois ça te mettait un peu à la frontière des pratiquantes, mais aussi des coachs? Est-ce que parfois les pratiquantes te demandaient elles aussi des conseils? Voilà, est-ce qu'il y a eu un réajustement des places qui a été nécessaire sur le terrain?
Alors, pas dans ces conditions-là, puisqu'en fait, j'ai fait plusieurs allers-retours sur mon terrain. Une première fois, plutôt du côté des membres du personnel, gérants, coachs, commerciaux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié un accès à mon terrain en demandant un stage qui était en lien avec mon master de management du sport à ce moment-là. Donc, je suis rentrée comme stagiaire commerciale et je suis rentrée du côté de l'organisation. À partir de ce moment-là, il fallait que je me conforme aux attendus de ces personnes-là. Et donc, j'ai fait en sorte d'essayer de m'approprier le langage verbal, mais aussi corporel de mes enquêtés, encore une fois, dans cette volonté de me fondre dans le décor, de passer inaperçu. À ce moment-là, oui, les clientes me sollicitaient pour des conseils, pour les mesures, pour avoir un avis sur leur alimentation. Le problème, c'est que je n'étais pas diététicienne, donc c'était toujours compliqué aussi de garder cette place-là. Donc, je me contentais de transmettre les informations que les autres coachs me demandaient de transmettre pour ne pas aller trop loin dans les conseils qui n'étaient pas mon cœur de métier. Et puis, une fois que j'avais fini cette première enquête, entre guillemets, j'ai quitté les stages, je me suis faite un petit peu oublier pendant plusieurs mois. Et je suis retournée dans d'autres salles pour me faire passer comme une simple cliente en prenant un abonnement, comme toutes les femmes. Et là, finalement, à partir de ce moment-là, les gérants et les coachs ne m'ont pas perçue comme une membre du personnel. Ils me voyaient vraiment comme une cliente et ils ne se souvenaient même pas de moi. Donc, ça a été un avantage pour moi. Et une fois que je suis rentrée en tant que cliente, il n'y a aucune femme qui m'a demandé de conseils particuliers, que ça soit d'un point de vue esthétique, sanitaire, sportif ou autre, puisque j'étais une cliente comme les autres. Donc, il n'y avait pas forcément de raison de venir chercher des conseils particuliers. J'étais vraiment une cliente comme les autres. Et donc, au même titre que les autres, on pouvait échanger sur des sujets divers et variés. Certaines parlaient de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs activités du week-end, de la météo, de la politique, peu importe. Mais on n'avait pas forcément... de conseils en matière d'apparence physique.
Et du coup, qu'est-ce que ces réajustements, ces stratégies de dissimulation, elles ont fait émerger de ton terrain?
Alors, à plusieurs niveaux, du côté vie personnelle, pas grand-chose, on va dire. Je pense pas que ça ait changé grand-chose. Simplement, j'étais une doctorante qui, à travers sa thèse, pouvait multiplier les heures de pratique sportive sans culpabiliser, puisque je pratiquais au sein des différentes salles de fitness pour alimenter mon travail de recherche. Donc ça, c'était confortable pour moi. Ça m'a permis de bouger, de me défouler. Ça a été un aspect quand même, je pense, très très important pour moi, vu que je n'aime pas être statique. Donc c'était quelque part important pour mon équilibre psychologique, de pouvoir concilier les deux, temps de travail, mouvement, activité physique. En dehors de cet aspect, ça a simplement confirmé chez moi que l'engagement dans une pratique physique à des fins esthétiques, c'était pas conforme à l'idée que je me faisais du sport et de ses finalités. vu que je viens d'un parcours stable, parce que j'ai été socialisée au sport, ben forcément, le sport, il occupe une place différente à mes yeux et revêt d'autres attraits, d'autres intérêts que celui de la simple finalité esthétique. Donc, de ce côté-là, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, pour ma thèse, ça a été quand même assez intéressant parce que ça l'a véritablement marqué dans la mesure où la manière d'appréhender mon terrain par corps finalement, c'est-à-dire en m'investissant corporellement, physiquement parlant, bah, ça m'a conduit à intégrer cette dimension-là dans le processus de rédaction, dans le processus de recherche. J'ai même consacré un chapitre entier de ma thèse à un récit d'enquête où je raconte l'envers du décor, je dévoile comment je suis passée du statut de stagiaire commercial à celui de cliente lambda, ce que ça a changé comme regard, comme position, comment j'ai dû m'adapter, les stratégies quelque part mises en place pour essayer d'être acceptée sur mon terrain. J'ai vraiment essayé de développer cet aspect-là dans un chapitre de thèse que je n'avais absolument pas envisagé au début de mon travail. Mais finalement, je me suis dit que, par honnêteté scientifique quelque part, mais aussi pour qu'on comprenne par où j'étais passée et montrer que je n'avais pas pris parti d'un côté ou de l'autre, ça serait peut-être intéressant de pouvoir retracer tout le processus de recherche à travers ce qui se passe et ce que d'habitude on garde sous silence. Là, je me suis dit, je voudrais le dévoiler, le rendre public pour qu'on voit véritablement ce que ça a impliqué de s'investir aussi comme ça et aussi par corps. Parce que j'avais véritablement une pression, j'avais peur que ma dimension corporelle, ma manière de me présenter, pouvait me faire perdre mon terrain en fait. J'avais peur de ça, j'avais peur de perdre mon terrain, de ne pas être acceptée. Et dans mon esprit, au début de mon travail, sans terrain, j'avais pas de thèse. Donc cette dimension corporelle, j'avais une sorte de pression derrière moi qui m'a amenée à y réfléchir très très vite et à essayer de développer tout un tas de stratégies de contournement, d'évitement, de dissimulation pour véritablement être acceptée, passer inaperçue. C'était vraiment un objectif qui était très criant dans mon travail.
Est-ce que tu penses que si ton corps, lorsque tu débutes ton enquête de thèse, est-ce que s'il correspondait aux normes du terrain, est-ce que tes résultats auraient été différents?
Alors ça, c'est difficile de le savoir, parce qu'effectivement, je me suis posé la question sur un certain nombre de moments. Je me suis rendu compte quand même qu'à travers mes entretiens, puisque j'interrogeais quand même la morphologie des femmes qui étaient en face de moi, je me suis rendu compte que j'avais des femmes en obésité morbide comme des femmes en situation de normalité. Je n'avais pas spécialement que des femmes qui me ressemblaient finalement, qui allaient répondre à mes entretiens. J'avais vraiment toute la disparité de profil de femmes qui étaient présentes dans ces salles. Donc, je n'ai pas eu l'impression que mon corps ait posé un quelconque problème. Donc, je me rassure en me disant que les stratégies mises en place ont peut-être fonctionné. Mais par contre, à quelques reprises, c'est pas arrivé souvent, mais à 2-3 reprises, on a pris mon corps à partie dans les entretiens en disant quand j'étais jeune, j'étais comme toi. Forcément, un homme va se retourner sur une femme comme toi, pas comme moi. Il y a eu de temps en temps, dans de rares situations d'entretien, donc c'est arrivé, oui, à 2 ou 3 reprises, des femmes qui ont prononcé cette phrase-là de comparaison avec ce que moi je renvoyais comme image. Et là, je me suis questionnée sur, effectivement, est-ce que les femmes se sont bridées à un certain moment parce que peut-être gênées de me dévoiler un certain nombre de choses étant donné qu'on ne se ressemblait pas. Et en décortiquant à plusieurs reprises les entretiens, je me dis finalement, ça n'a pas l'air d'être gênant pour elles à ce moment-là puisque on va me parler d'incontinence urinaire, on va me parler du poids exact qu'elles font. De leur IMC, on va me parler de leur masse grasse, elles vont me donner des détails, des données très précises sur leur propre corps, qui me laissent penser que finalement, elles n'avaient pas l'air de se sentir jugées. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai perçu en décortiquant à plusieurs reprises mes entretiens. Et finalement, j'ai pas l'impression que même celle qui m'avait pris comme comparaison à un moment donné dans une phrase de l'entretien, j'avais pas eu l'impression que à un moment donné, cette image de moi, cette information ait pu être un frein ou en tout cas ait pu les brider dans leur discours. Par contre, quoi qu'il arrive, je ne peux pas être sûre à 100% que si je n'avais pas été en surpoids, par exemple, je n'aurais pas eu d'autres réponses. Ça, je ne peux pas en avoir la certitude.
Ok, merci. J'ai encore quelques petites questions. Du coup, celle-ci, j'aurais pu te la poser un petit peu plus tôt, mais à quel moment de ta thèse, de ton enquête, tu as commencé finalement à mettre en place les stratégies dont tu parlais au début de notre entretien?
Finalement, je les ai mises en place très très vite parce que quand je me suis rendu compte en faisant mes stages de master et notamment de master 1, que la clientèle dans ces salles n'était pas du tout celle qu'on avait l'habitude de voir dans les salles mixtes, je me suis dit que je pouvais poser problème en apparaissant tel quel, sans ajustement sur mon terrain. Et donc, dès le cours de mon master 1, finalement, et mon mémoire de recherche de master 1, je me suis dit que c'était une dimension qu'il allait falloir prendre en compte très, très rapidement. Et donc, je me suis laissé un petit peu de temps parce que je me sentais pas encore suffisamment solide, méthodologiquement parlant, pour pouvoir penser à tout, pour pouvoir m'assurer d'être sur un terrain totalement ouvert. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité de mon parcours en STAPS, de ma formation, etc., en me disant, OK, les deux premières années, je vais déjà me contenter d'observer du côté des gérants, des coachs, des commerciaux, parce que finalement, pour eux, je suis pas un danger. Je suis pas un problème. Finalement, je leur ressemble. Donc, ça devrait être facilitant pour moi. Et effectivement, ça l'a été. Et une fois que ce travail-là avait été fait, j'avais déjà 2-3 ans de méthodologie derrière moi. J'avais déjà commencé à roder quelques techniques d'enquête. Et c'est là seulement après ce temps-là et une sortie sur le terrain qui m'a permis aussi de prendre du recul sur ce qui s'était passé, les erreurs que j'avais pu commettre aussi, parce que ça m'est déjà arrivé. Une fois, je suis arrivée à un entretien avec deux gérantes habillées pour un entretien professionnel que j'avais juste après. Et donc, c'était en pleine période d'été, pendant les vacances, et je suis arrivée avec un débardeur fleuri, un jean près du corps et des talons hauts parce que j'allais à un entretien professionnel derrière. Et finalement, je me suis rendu compte que mon apparence physique avait dérangé. Mon entretien était très, très mauvais. J'ai pas du tout eu les réponses attendues et j'ai pas été reçue aussi aimablement que ça avait été le cas quand j'avais négocié mon entretien. Et à la fin de mon entretien, j'ai pas compris ce qui s'est passé pendant l'entretien, mais pas du tout. Et plusieurs fois, j'ai eu l'impression quand même qu'on regardait mes chaussures, etc. Et c'est la dernière phrase de l'entretien quand l'une des géantes me dit « Sympa les chaussures ». Et là, j'ai compris. J'ai compris que j'avais commis une erreur, que j'aurais dû avoir des baskets à ce moment-là dans ma voiture et que j'aurais dû mettre des baskets et me changer pour mon entretien professionnel après. Et là, à partir de cet entretien-là que j'ai fait à la fin de mon M1, je me suis rappelée d'un article que j'avais lu des Pinsou Charlot qui ont travaillé sur la bourgeoisie et la manière dont on peut paraître, etc. Et je me suis dit, là, j'ai commis une erreur. Je me suis pas adaptée à mon terrain, je me suis pas conformée. Et donc, à partir de ce jour-là, j'avais dans ma voiture de quoi me démaquiller. J'avais toujours une tenue pratique ample, j'avais toujours une paire de baskets, j'avais toujours un élastique pour nouer mes cheveux. En gros, j'avais ma tenue de terrain dans ma voiture pour pouvoir me dire, n'importe quel moment, je peux me changer. Donc voilà, j'ai pris du temps, au final, pour essayer de mettre en place toutes ces stratégies, parce que je pense que si j'avais commencé mon terrain comme je l'imaginais à la base, comme dans les salles mixtes, en final, je me serais plantée.
Et donc, du coup, au regard de ton expérience et de ton recul, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes chercheurs lorsqu'ils investissent un terrain qu'ils ne connaissent pas forcément ?
Alors, des conseils, c'est bien beau de dire des conseils maintenant, parce que voilà, chaque terrain est différent. Je pense avec le recul que le meilleur conseil qu'on pourrait donner, c'est de prendre le temps d'observer un peu à distance ce qui se passe sur son terrain pour essayer de voir si, surtout sur des terrains sur lesquels il n'y a pas eu beaucoup de recherches, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, d'essayer d'observer un petit peu à distance pour prendre des informations et pour voir un petit peu à quoi s'attendre. Pour justement essayer de se laisser une marge de liberté, une marge de manœuvre si jamais on n'est pas vraiment... je ne sais pas si on n'a pas le physique de l'emploi, si on détonne dans le décor, etc. Nous laisser un peu de temps de cette prise de recul. Parce qu'une fois qu'on est rentré sur son terrain, on ne peut pas toujours faire machine arrière. Donc le fait de pouvoir essayer d'observer un petit peu à distance pendant quelques temps et de pouvoir y réfléchir, de voir comment les gens se comportent sans éveiller l'attention sur soi, je pense que Quoi, moi, en tout cas, c'est vraiment ça qui m'a permis de me fondre sur mon terrain à ce moment-là. Si je n'avais pas pris ce temps-là et si je n'avais pas eu la chance de rentrer à ce moment-là avec mon stage, je pense que véritablement, j'y serais allée comme dans toutes les autres salles de fitness que je connaissais. Et alors là, c'était fini pour moi, quoi. J'avais plus de terrain d'enquête parce que j'aurais été identifiée comme étant la nana qui arrivait dans une salle de fitness habillée comme une minette, entre guillemets, pour reprendre l'expression employée par mes enquêtés.
Je trouve que c'est passionnant, Cindy. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses? Moi, de mon côté, je n'ai plus d'autres questions. Enfin, j'en aurais encore beaucoup d'autres, mais voilà, on avait dans l'idée de proposer un podcast assez court pour que tout le monde prenne le temps de l'écouter. Donc voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce qu'on peut s'arrêter là?
Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. On a balayé quand même pas mal de choses, donc ça devrait aller.
Eh bien, merci beaucoup Cindy Louchet d'avoir participé à notre podcast Jeune Chercheur. Et j'ai terminé.
Avec plaisir.
Au revoir.